Frédéric Travier. Tu peux te présenter si tu veux, hein, il n'y a pas de souci.
Oui, d'accord. Vous entendez bien, c'est bon?
Oui,
on entend.
c'est
Ok,
bien.
ça marche. Voilà, bah écoutez, je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Merci pour votre encouragement, votre amitié. Voilà, ça me fait chaud au cœur que vous m'ayez aussi demandé d'être avec vous aujourd'hui. Alors, un petit mot de présentation très bref. La plupart me connaissent quand même, hein, mais donc je suis pasteur évangéliste itinérant, et c'est vrai qu'en ce moment, l'itinérance, elle est plutôt en stand-by, mais c'est bien, ça permet aussi de se reposer un petit peu, j'en avais besoin. Le Seigneur est bon. Voilà, donc je suis au service et à la disposition des églises francophones pour apporter les week-ends et en semaine aussi dans la région des enseignements, évangélisation, édification. Voilà, sinon je suis papa de 4 enfants, je suis grand-père de 4 petits-enfants. Et justement aujourd'hui, on va fêter les 25 ans de ma dernière fille. Voilà, donc la famille va se retrouver un petit peu ici, ceux qui peuvent venir en tout cas, qui sont pas au-delà des 100 km. Voilà, quelques mots, et puis si certains veulent recevoir ma lettre de nouvelles, vous n'hésitez pas, vous le dites à un des responsables et il me fera passer vos coordonnées, je peux vous l'envoyer. Voilà, je suis comme vous, hein, dans cette perspective de week-end de l'Ascension, et j'avais envie de nous amener effectivement à regarder vers le ciel, parce que l'Ascension de Jésus, on peut vraiment dire que c'est une porte grande ouverte vers le ciel. Et j'aimerais partager sur un premier texte, et puis vous verrez, on va évoluer un petit peu sur d'autres thèmes, ou en tout cas textes, tiré du livre tout d'abord des Actes des Apôtres, au chapitre 1, et je lis à partir du verset premier. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset premier. Donc, voici ce qu'écrit Luc. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà un texte extraordinaire, n'est-ce pas? Et l'auteur de ce livre des Actes, Luc, qui est médecin, devenu disciple de Jésus, ne faisait pas partie des 12, mais était certainement très proche du Seigneur pour écrire à la fois un évangile et ce livre des Actes des Apôtres qui parle de la naissance de l'Église. Mais Luc et Marc nous parlent de l'ascension de Jésus, alors que Matthieu et Jean, les évangiles, ne nous en parlent pas. Marc terminera son évangile très succinctement par cette phrase: Le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Mais ni Matthieu ni Jean ne termineront leur évangile par l'ascension de Jésus. Donc nous sommes reconnaissants, bien évidemment, et heureusement, l'Esprit a bien inspiré Luc et Marc de nous rappeler et de nous parler de cet événement. Car c'est un événement extraordinaire. On pourrait presque dire surréaliste même pour les témoins de la scène. D'ailleurs, vous l'avez lu dans le texte, comme moi, les disciples restent hébétés en voyant Jésus monter au ciel, ou en tout cas se dérober à leurs yeux, parce que c'était extraordinaire, et ils ne s'y attendaient absolument pas. On pourrait presque dire que les journaux d'aujourd'hui titreraient certainement leur une de mots choc, comme peut-être celui-ci, enlèvement en direct, départ vers le ciel, hein, que sais-je encore. Et nous n'aurions peut-être pas de peine à imaginer la cohue qu'il y aurait eu autour des disciples, encerclés de caméras, d'appareils photos, de flashs, etc. Et sûrement l'exclusivité des chaînes de télévision, parce que c'était un événement incroyable. La nuée dont il est question dans le récit et qui enveloppe Jésus est le signe même de la présence de Dieu. Nous avons cette nuée présente tout au long de l'Écriture et elle débute particulièrement au moment où Israël, alors esclave en Égypte, quitte l'Égypte pour se trouver vers le Sinaï, ou en tout cas vers aller vers le Sinaï, où cette nuée les précédait et montrait la présence de Dieu. Elle les a suivis tout au long des 40 années d'ailleurs de leur périple dans le désert. Elle signifie et symbolise, mais plus que symbolise parce qu'elle était réelle, la présence de Dieu au milieu de ce peuple. Nous avons une autre allusion à la nuée dans le Nouveau Testament où ce texte de la Transfiguration, par exemple, je lis dans Luc chapitre 9 verset 32 ceci: Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, mais dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Et comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée, et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Là encore, un événement très particulier. La nuée va donc dérober Jésus ce jour de l'ascension au regard des disciples, et donc des hommes en général. Cela signifie qu'à cet instant précis, Jésus entre dans le monde divin, qu'il cesse avec nous un certain mode de présence, c'est-à-dire charnel, visible, pour en inaugurer un autre, c'est-à-dire spirituel. D'où l'envoi, d'ailleurs, du Saint-Esprit, annoncé juste avant par le Seigneur et que Luc a rapporté dans le texte que nous avons lu, « Vous recevrez une puissance, l'Esprit viendra sur vous. » C'est aussi d'ailleurs ce qu'écrit Jean dans son évangile, je le cite au chapitre 14, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Et certaines d'entre nous, dans les prières, ont rappelé cet événement de l'Esprit qui est en nous et qui nous unit aujourd'hui. Alors, aussi surprenant que cela puisse être, Jésus n'a pas été le premier à vivre cette ascension. Et il ne sera pas non plus le dernier. En effet, l'Écriture nous révèle que deux autres personnes ont vécu cette expérience avant lui. Il s'agit d'Enoch et Élie. Élie, que dans l'évangile de Luc, il est reconnu dans ce temps de la transfiguration par l'un des disciples, Pierre, hein, aux côtés de Moïse. Enoch et Élie. Il est dit d'Enoch qu'il marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc, tous les jours d'Enoch, dit le livre de la Genèse, furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous avons ce texte, je le cite au chapitre 11, verset 5, « C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. On ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Voilà un premier personnage qui vécut cette ascension. Et puis, le deuxième personnage, c'est Élie, je l'ai cité. Et dans le deuxième livre des Rois, nous avons cette expérience aussi extraordinaire, cet événement qui nous est écrit au chapitre 2 et au verset 10, où Élie se retrouve en compagnon d'Élisée, qui va être son successeur. Et Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Ce qui est extraordinaire ici, c'est de voir que Élie avait reçu la conviction de Dieu qu'il allait partir et qu'il était sur le point, quelque part, de partir. Ça reste très mystérieux. Alors Élisée répondit, « Eh bien qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Soit dit en passage, on pourrait se dire, Élisée est un peu gonflé quand même, hein, de demander une double portion de l'esprit d'Élie, mais il le fait. Et Élie lui dit alors, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il releva le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Vous noterez que pour ces trois ascensions, dont Jésus, Élie et Enoch, il y a eu des témoins pour attester la véracité de ces événements. Et il faudrait être de mauvaise foi ou rejeter totalement l'Écriture pour en nier la véracité. Mais une question est venue à mon esprit. Pourquoi Enoch et Élie ne sont-ils pas morts? Les textes ne semblent pas apporter de réponse à cette interrogation. Et nous devons éviter de nous laisser aller à des suppositions. Mais je crois que si l'Écriture reste mystérieuse sur la réponse à cette question, elle oriente quand même notre pensée sur la réalité de ce fait, comme quelque chose de possible pour le commun des mortels. Que Jésus soit enlevé vers le ciel, nous pourrions dire, c'est normal. Il est le Fils de Dieu, descendu déjà de ce même ciel. Mais que ces hommes, comme Élie, dont Jacques écrit qu'il était de la même nature que nous, puissent le vivre, voilà qui interpelle et nous invite à croire par la foi à la réalité de ces événements. Pourquoi devons-nous y croire? Et pourquoi, quelque part, ces deux exemples nous sont donnés dans l'Ancien Testament? Eh bien, je l'ai dit un peu plus haut, parce que une génération tout entière est appelée à vivre ce même événement, parce que l'apôtre Paul lui-même le décrit aux Thessaloniciens. Et il est important de lire ce texte de quelques versets, tiré de la première aux Thessaloniciens, au chapitre 4, et à partir du verset 13. Et voici ce qu'écrit l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors encouragez-vous, consolez-vous, écrit Paul, les uns les autres, par ces paroles. Vous avez remarqué qu'il parle aussi de la nuée. Nous serons enlevés avec eux sur des nuées, n'est-ce pas? Il y a cette idée qui est la même. Et cette vision qui est la même que Jésus au moment où il est parti. Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus n'a pas été le premier à vivre cette ascension et ne sera pas le dernier. Ce passage de Paul nous fait entrer dans une dimension qui nous dépasse et que l'on ne peut pas expliquer, bien évidemment. Cela paraît tellement invraisemblable, incroyable même, n'est-ce pas, d'être enlevé dans les airs pour aller à la rencontre de Jésus. Je pense, en pensant à quelque chose d'incroyable, à un moment où le prophète Habacuc reçoit une révélation de Dieu qui lui paraît complètement incroyable, où Habacuc écrit, je le cite au chapitre 1, verset 5 de son écrit prophétique, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez, soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. » Voyez, Habacuc note, et je vous prie de noter l'expression, « Vous ne croiriez pas si on l'a raconté. » Aujourd'hui, si on cite, et on le cite, je le fais particulièrement lors d'enterrements d'ailleurs, ce texte de Paul aux Thessaloniciens, qui pourrait aussi avoir l'impression de ne pas être réaliste. Et pourtant, c'est une réalité qui va venir. Nous serons un jour enlevés si nous sommes vivants au retour du Seigneur. Cette révélation de Paul aux Thessaloniciens s'apparente à l'ascension d'Enoch, d'Élie et de Jésus. Les propos de Paul attestent la réalité de ce fait comme devant être attendu et entièrement certain. Et en décrivant aux Thessaloniciens cette ascension de l'Église, qui de ce fait va être enlevée de la terre, Paul termine son passage en disant aux Thessaloniciens qu'il veut les consoler. Il dit « Consolez-vous par ce que je viens de vous révéler, frères et sœurs. » Pourquoi s'est-il senti obligé de terminer en racontant cela, alors qu'il ne le fait qu'une seule fois dans son ministère, de consoler les frères et sœurs? Eh bien, tout simplement parce que les Thessaloniciens, mais peut-être pas que, étaient surpris de voir que les chrétiens, en tout cas les frères et sœurs de l'Église, certains d'entre eux, décédaient. Alors, ils se disaient, mais Jésus nous a promis qu'il reviendrait, que nous le verrons, et ils pensaient que le retour de Jésus allait venir là tout de suite, enfin, en tout cas rapidement. Et ces personnes, frères et sœurs qui décèdent, ils s'interrogent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ne seront pas là quand Jésus va revenir? Que va-t-il leur arriver à eux quelque part? Et ils étaient totalement déboussolés, très inquiets de la situation. Et c'est pour ça que Paul leur dit, mais ne vous inquiétez pas, parce que ceux qui sont morts vont ressusciter d'abord. Nous ne le verrons pas. Mais quand Jésus le décidera, qu'il sera à la porte et qu'il amènera son Église à lui, juste avant, eux seront déjà enlevés, quelque part, en tout cas ressuscités, et ils seront en sa présence. Et nous les rejoindrons, nous qui serons restés vivants, pour l'éternité, enlevés vers eux. Donc, consolez-vous, n'ayez pas peur, soyez dans la paix. Dieu prend soin de ceux qui sont aussi décédés. Et d'ailleurs, cette parole qui était en eux, n'est-ce pas, comme quoi Jésus allait revenir, était donnée par les anges du premier texte que nous avons lu à ses disciples restés complètement hébétés de voir Jésus repartir au ciel. Qu'avaient dit les anges? Eh bien, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ici, il n'est pas dit quand il viendrait. Et si les anges avaient dit, ben écoutez, il reviendra dans 2000 ans, au minimum, puisque nous sommes à peu près dans 2000 ans après, peut-être ils se seraient tous découragés, mais on ne verra plus Jésus, etc., etc. Non, il y avait cette idée que Jésus allait revenir très vite. Et c'est ce qui a fait que l'Église est toujours restée quelque part dans cette expectative et cette attente. Et il est important pour nous aujourd'hui de se dire, mais Jésus peut aussi venir d'un moment à l'autre. Ne vous affligez pas, donc consolez-vous. Ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous avez cette espérance. Nous, mes amis, nous avons cette espérance de cet enlèvement et de la vie éternelle. Alors, si ce texte de Paul aux Thessaloniciens est le seul passage de l'apôtre qui fait explicitement allusion à l'ascension de l'Église, il ne faut pas oublier ce que Jésus dit, lui, de cet enlèvement et que rapporte l'évangile de Matthieu. Et je voudrais citer deux références. D'abord, au chapitre 24 de Matthieu et au verset 36, voici ce que dit Jésus. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissé. Dans l'évangile de Luc, un parallèle de cette parole de Jésus, il nous est dit, je vous le dis, et c'est Jésus qui parle, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ou travailleront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le passage de Luc, ce dernier que je viens de citer, nous montre que l'enlèvement aura lieu la nuit pour certains, allusion à ceux qui dorment, n'est-ce pas, le lit, et le jour pour d'autres, allusion à ceux qui travaillent, ces femmes qui moudront, etc. Ce sera donc un événement qui se passera au même instant sur toute la surface de la terre. Car nous le savons, bien évidemment, hein, et Jésus savait très bien, avant même Galilée, que la terre était ronde, qu'elle tournait autour du soleil, qu'il fait donc nuit pour certains, alors qu'il fait jour pour d'autres. Au moment de l'enlèvement, ceux qui travaillent, comme ceux qui dorment, seront comme aspirés dans les airs, au même moment, au même instant. Alors je voudrais faire une remarque sur ce texte, sur ces paroles de Jésus, qui quand même nous interpellent. Je suis interpellé par ce que dit Jésus en semblant montrer qu'il y a un tri qui est fait, bien évidemment, puisque un est pris et l'autre est laissé, qui est de 50%, pile poil. Et à tous les exemples qui sont donnés, c'est toujours un qui part et l'autre qui reste, n'est-ce pas? Alors, je ne pense pas qu'il faille en conclure que la moitié des hommes sur terre seront sauvés et les autres seront perdus. Idem d'ailleurs pour la parabole des 10 vierges qui a la même pensée. 5 sont sages, 5 sont folles. Hein. Il aurait pu y en avoir 6 sages et 4 folles hein, et faire des rapports de chiffres différents. Mais on est dans un rapport 50-50 aussi. Pourquoi 5 sages, pourquoi 5 folles? Pourquoi un reste et l'autre s'en va? Je ne crois pas que c'est pour nous dire que l'Église universelle sera mathématiquement divisée en deux au moment de l'enlèvement, mais peut-être pour nous avertir. Et c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit il n'y a pas si longtemps que cela, qu'il y aura, et alors peut-être je me trompe mais en pensant cela, mais personnellement ça me plaît de le croire et de le penser, qu'il y aura autant, je dis bien autant, c'est-à-dire identique, de bonnes que de mauvaises surprises. L'épouse qui se voit sur la terre et qui représente l'Église ne sera pas, malheureusement, j'ai envie de dire, identique à celle qui sera enlevée dans les airs et conviée aux noces de l'agneau. Et à ce titre, il y aura des bonnes et des mauvaises surprises. Des personnes qui se croyant justifiées par leurs œuvres, étant convaincues d'être dans le ciel pour l'éternité, n'y se trouveront pas si elles ne sont pas passées par la nouvelle naissance. Et là, il y aura une mauvaise surprise. Comme d'autres qui peuvent être convaincus d'une chose ou d'une autre parce qu'ils reçoivent des enseignements erronés que l'Écriture ne montre pas, il y aura de mauvaises surprises, mais il peut y avoir aussi de bonnes surprises. Des personnes que nous, peut-être que nous côtoyons aujourd'hui et dont nous avons l'impression qu'elles sont éloignées de la foi, un jour peut-être elles se donneront à Christ et nous les trouverons là-haut. Et là, ce sera une bonne surprise. Alors je me dis, tiens, c'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses, mais... Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette réflexion parce que voilà, nous pourrions peut-être aller un peu trop loin. Mais voilà, c'était un petit peu une remarque que je voulais faire. Alors, s'il n'est pas écrit dans le texte de Paul aux Thessaloniciens quand l'apôtre a eu cette révélation extraordinaire de l'enlèvement de l'Église, cette ascension, on peut supposer qu'il l'a reçu lorsqu'il fut arrêté sur le chemin de Damas, par Jésus lui-même, alors qu'il allait chercher des chrétiens là-bas pour les amener à Jérusalem et les persécuter. Et en particulier, au moment où il a été pendant 3 jours aveugle, où il est resté totalement isolé du groupe avec lequel il se trouvait. Est-ce aussi durant ces 3 jours où Paul ne voit rien, qu'il a vécu cette expérience extraordinaire, semblable à une ascension? Et voici ce qu'il écrit. Et il le témoigne aux Corinthiens, au chapitre 12, dans sa deuxième lettre, et au verset 1er. Paul dit, « Il faut se glorifier. Non, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, en Christ, qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, et il redit la même chose, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. N'importe qui aurait été qualifié d'illuminé ou de fou en décrivant une telle expérience. L'apôtre écrit qu'il a été ravi, c'est-à-dire enlevé, jusqu'au troisième ciel. Et il est bouleversé par cette expérience. Et il ne peut expliquer comment elle s'est produite, si ce fut dans son corps, hors de son corps. Vous voyez, il tergiverse un petit peu. Est-ce que c'était avec réellement que j'étais présent dans ce lieu, ou est-ce que c'est un songe, un rêve, etc. En tout cas, s'il n'a aucun doute sur la réalité de ce qu'il a entendu et vécu, vous noterez que dans ce lieu, il ne dit pas ce qu'il a vu, mais seulement ce qu'il entend. C'est-à-dire des paroles merveilleuses, dit-il, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et il s'interroge, nous l'avons lu, sur ce qu'il s'est passé. Alors, un rêve, un songe, de manière réelle. Je pense à Jacob dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, où il nous est dit qu'il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et l'Éternel se trouvait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. » Alors s'il est bien précisé dans cet exemple pour Jacob qu'il fit un rêve, cela n'exclut pas pour autant la réalité des choses qu'il voit et qu'il entend. En clair, ce n'est pas parce que c'est un rêve que c'est farfelu, irréel ou fantasmagorique. Dieu parle bel et bien, se montre, se manifeste et avertit aussi de cette manière-là. Nous le savons parce que Job l'écrit dans son écrit. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, il parle par des visions, il parle nocturne, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. C'est exactement ce que Paul, en tout cas, pense avoir vécu, mais en même temps, il ne sait pas si c'était aussi réel et si son corps y était vraiment présent. Quoi qu'il en soit, l'apôtre a été transporté dans une partie du ciel qu'il nomme le troisième ciel. Et il identifie ce troisième ciel au paradis. Ce pourrait être le même lieu d'ailleurs que Jacob voit, ou en tout cas discerne, puisque l'échelle qu'il voit atteint l'endroit où se trouvait Dieu lui-même, puisque Dieu parle de l'endroit où se trouvait le bout de l'échelle où les anges descendaient. Vous savez, la Bible parle souvent de plusieurs cieux et nomme même les cieux des cieux. C'est assez énigmatique aussi cela. Et si l'apôtre parle de troisième ciel, c'est qu'il semble y en avoir forcément peut-être deux autres avant. Ça m'a un petit peu interpellé, cette expression du troisième ciel. Et je me suis imaginé alors, étant dans un ascenseur, voulant monter au troisième étage. Je vais appuyer sur le bouton numéro 3. Mais je sais que je vais passer un premier étage et un deuxième étage. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il y ait un quatrième et plus d'étages. Moi, je veux aller au troisième. Il n'est pas sûr qu'il y ait un quatrième, cinquième, sixième ou septième ciel. Non. Paul est ravi au troisième ciel. S'il dit trois, c'est qu'il y en a deux précédemment. Mais il reste assez mystérieux. Alors, on peut dire communément qu'on dit qu'il y a le ciel atmosphérique, c'est-à-dire ce premier ciel qui est au-dessus de nous, puis l'espace intersidéral, ou voilà, ce deuxième ciel, et le lieu de la présence de Dieu qui serait ce troisième ciel, qui n'est pas visible, bien évidemment, même avec nos propres objets scientifiques, etc., et, voilà, et que Paul identifie d'ailleurs au paradis, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve la présence de Dieu, où se trouve Dieu lui-même. Alors, je voudrais faire une remarque. Jésus a dit un jour à Nicodème, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Personne, dit Jésus, n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. J'ai été interpellé par cette parole et ce texte-là dans ce contexte de Paul. Le fait que Jésus dise que personne n'est allé au ciel, le ciel dont il est lui-même descendu, puisqu'il dit tout de suite après, le Fils de l'homme est descendu du ciel. Eh bien, ne laisse aucun doute sur le fait que ni Enoch, ni Élie dont nous avons parlé ne sont allés dans le ciel dont parle Jésus, c'est-à-dire l'endroit d'où il vient, lui. Et je pense que c'est le paradis. Et Jésus semble bien vouloir parler de ce ciel dans lequel l'apôtre Paul semble, lui, avoir été. Mais réfléchissons à la chronologie. Quand Jésus dit « Personne n'est monté au ciel », au moment où il le dit, il est sur terre. Il n'est pas encore lui-même remonté au ciel. Il n'y a que Enoch et Élie qui ont vécu cette ascension. Et Jésus dit « Personne n'est monté au ciel, donc eux n'y sont pas allés ». Je le sous-entends comme ça. Mais l'apôtre Paul n'était même pas encore devenu apôtre, n'est-ce pas? Puisque Jésus était encore sur terre. Donc, quand Jésus dit « Personne n'est monté au ciel », c'était personne. Mais finalement, quelques années plus tard, cela n'empêchait pas le Seigneur de permettre au futur apôtre Paul, Saul, qui persécutait l'Église, eh bien lui, de vivre cette expérience. Car plus tard, personne ne dit que personne n'est monté au ciel. Donc Paul, il est tout à fait possible, et je le crois de tout mon cœur, est bien allé dans ce lieu d'où Jésus est descendu et que Paul associe au paradis. Alors, on pourrait extrapoler encore et partager sur ce thème-là, mais je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais encore rajouter autre chose, mais pas dans ce domaine-là. Et je pense à ce texte du Deutéronome, chapitre 29, verset 29, qui nous dit, je cite, « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Voilà, on essaie d'expliquer, on essaie de comprendre, mais il y a des choses qui nous dépassent quand même, et il faut rester humble, bien évidemment, devant ce que Dieu ne nous dévoile pas forcément clairement. En même temps, je reviens sur l'expérience de l'apôtre Paul. Peut-elle s'oublier cette expérience? Non, bien évidemment. Et il le dit, il y a 14 ans. Donc ça veut dire que durant les 14 années qui ont passé, Paul n'en a jamais parlé. Nous n'avons pas non plus oublié nous-mêmes notre jour où nous avons compris l'amour de Jésus pour nous. Ce jour où ce temps peut-être, parce que ce n'est peut-être pas un jour précis pour tous, mais ce temps où nous avons réalisé que Christ était mort, que Christ était notre sauveur et était devenu notre sauveur. Ce jour de conversion, appelons un chat un chat, nous ne l'avons pas oublié parce que c'est quelque chose qui a changé notre vie. Et Paul ne pouvait pas oublier ce jour qui a changé sa vie. Pas 10 ans, pas 15 ans, pas 3 ans, 14 ans, c'est précis. Eh bien, les indices au moment où il est tombé à terre, quand il était sur ce chemin de Damas, comme la lumière qu'il voit, et c'est dans les Actes des Apôtres, cela nous est rapporté, la voix qu'il entend, n'est-ce pas, et qu'il attribue à Jésus lui-même, qui lui dit « Mais que fais-tu, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ne laisse aucun doute sur le fait qu'il était à ce moment-là, Paul, avec cette lumière étincelante et cette voix qu'il entend, entré dans une autre dimension, dans un autre monde. Il était présent physiquement sur le chemin de Damas, au milieu de ses collègues, mais il était déjà bel et bien ailleurs, dans la présence de Dieu. Et la cécité dont il est atteint va durer 3 jours, dit le texte de Luc. Il est dit à Acte 9, « Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit alors par la main pour le conduire à Damas, où il resta là 3 jours, sans voir, ni n'a mangé, ni n'a bu. Et il faudra l'intervention d'un disciple nommé Ananias pour qu'après une imposition des mains de celui-ci, Paul recouvre la vue. Et une fois rentré à Jérusalem, d'ailleurs, l'apôtre revivra aussi une expérience similaire sur le chemin de Damas, mais bien plus courte. Je cite Paul, il dit « De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi, sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Paul va recevoir une écharde dans la chair au moment où il va vivre cette expérience extraordinaire de cette ascension dans le troisième ciel. Et l'écharde dont Paul parle était aussi une grâce de la part de Dieu. En effet, connaissant le tempérament naturel de ce serviteur impétueux, sachant mieux que personne combien le vieil homme peut revenir au galop, Dieu l'a volontairement et physiquement affaibli. Et Paul le dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair pour m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors je me glorifierai, dit Paul, bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul avait non seulement fini par comprendre le pourquoi de son handicap, mais avait aussi accepté la volonté de Dieu sur lui-même. D'ailleurs, aux frères de Galates, quand il leur écrit une lettre au chapitre 4, voici ce qu'il leur dit. Vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et donc, mis à l'épreuve, dit-il, par mon corps, vous n'avez montré ni mépris ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Où donc est l'expression de votre bonheur? En effet, je vous rends ce témoignage, si cela avait été possible. Vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Et voyez ici, l'apôtre Paul laisse entendre très clairement que d'abord, c'est parce qu'il avait un problème de physique qu'il a annoncé l'évangile aux Galates. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui a fait qu'il a annoncé et pourquoi. Une occasion en tout cas s'est présentée. Et qu'ils n'ont eu aucun mépris ni dégoût. Ça veut dire que Paul devait avoir même visuellement quelque chose de pas beau à voir, puisqu'il dit « vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner ». Vous savez, des fois, quand on voit quelqu'un qui est handicapé, qui a un souci dans la rue, ou même un membre de notre famille qui souffre, combien des fois, par compassion, on se dit à nous-mêmes « mais pourquoi j'aimerais prendre sa place, ne serait-ce qu'une heure pour le soulager. J'aimerais lui donner une jambe pour qu'il puisse aller travailler, mais je ne peux pas, bien évidemment. » Vous voyez, mais les gars, Paul dit « Vous auriez voulu me donner vos yeux ». Donc, on sait qu'il avait un problème de vue. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul n'écrivait pas lui-même ses écrits. Parfois, il conclut en écrivant « j'écris de ma propre main ». Il le dit une fois ou deux. Mais il est dicté parce qu'il avait un problème de vue. Et on comprend que l'apôtre ait prié trois fois en disant « Seigneur, mais tu veux que je sois apôtre, tu veux que j'annonce l'évangile, mais regarde ce problème que j'ai pour me déplacer, pour être autonome même à la limite. » Et Dieu lui dit « ma grâce te suffit ». Et Paul a compris que cette cécité dont il était atteint, enfin ce problème de vue, ce n'est pas une cécité parce qu'il a recouvré la vue à un moment, était donné pour qu'il ne s'enorgueillisse pas de l'excellence des révélations, c'est-à-dire cette ascension au troisième ciel qu'il avait vécu. Et moi, je trouve que là, nous avons une bienveillance de Dieu qui à la fois protège le serviteur, son serviteur Paul, de tomber dans l'orgueil, mais aussi le message que Paul va délivrer. Combien de serviteurs de Dieu, et c'est pour ça que Paul dit à plusieurs reprises, priez pour vos conducteurs spirituels. Pour combien de serviteurs de Dieu se sont laissés piéger par l'orgueil qui est terrible dans le ministère et ont fini par décrédibiliser leur propre enseignement parce qu'ils sont tombés eux-mêmes dans l'orgueil. Satan s'est très bien manœuvré dans ce domaine-là. Et Dieu donc protège Paul pour qu'il ne tombe pas dans ce piège et en même temps pour que le message qu'il délivre ne soit pas balayé d'un revers de manche une fois que ce serviteur serait tombé dans les pièges de l'orgueil. Alors j'aime à penser que ces trois jours où Paul ne pouvait voir la lumière du jour et où il est conduit par la main à Damas, a eu largement le temps de comprendre et de saisir ce qu'il va devoir annoncer tout au long de son ministère dans les années qui vont suivre. Trois jours nécessaires à ce pharisien endurci pour que les pièces du puzzle qu'il connaissait, parce qu'il connaissait la loi par cœur, mais il n'avait pas compris et il ne voulait pas accepter que Jésus était ce Messie qu'il attendait, lui, parce que les prophètes l'annonçaient. Trois jours pour qu'il comprenne son erreur de rejeter, comme la plupart de ses collègues, la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Trois jours de cécité ont été le temps d'écoute et d'assimilation du message à délivrer. Et je suis convaincu personnellement que ces trois jours-là ont été ces trois jours où il a été ravi au troisième ciel, dans le paradis, et où il dit lui-même qu'il a entendu des choses merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mais lui a eu la traduction, lui a eu les éléments nécessaires pour que pendant ces 3 jours, il reçoive les directives et il voit le Christ comme étant le Messie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été l'apôtre, qu'il a été convaincu et convaincant. Il ne tardera d'ailleurs pas, une fois qu'on lui aura redonné la vue par imposition des mains, à agir directement. Il nous est dit dans Actes 9, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres, une fois qu'on lui avait imposé les mains et qu'il avait recouvré la vue, et il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il y a là une transformation pour Paul qui est extraordinaire et c'est pour ça qu'il peut dire « Il y a 14 ans, je fus ravi au troisième ciel ». Alors, avant de conclure, on peut s'interroger pourquoi Paul a attendu 14 ans pour en parler de cette expérience d'une ascension dans le ciel. Eh bien, il semble bien que lorsqu'il écrit aux Corinthiens à ce moment-là et qu'il dévoile ce qu'il a, cette expérience vécue, que son ministère ait été attaqué par des faux docteurs et des personnes qui voulaient le discréditer, et que pour attester quelque part un peu mieux encore le message qu'il avait reçu, il a avoué et dit comment les choses se sont passées. Et le fait qu'il ait reçu cela directement du Seigneur Jésus, par cette révélation, attestait encore un peu plus la véracité de son ministère. Alors, vous savez, j'ai donné cette image d'un puzzle. Les pièces du puzzle pour Paul se sont mises en place. Quand quelqu'un a parlé tout à l'heure dans une prière, je crois, ou à l'introduction, je ne sais plus, à la présidence, mais quand nous lisons l'Écriture et nous devons lire l'Écriture, il y a des choses que nous ne comprenons pas et des choses, bien sûr, que nous comprenons. Eh bien, chaque fois que nous lisons l'Écriture, c'est comme si c'était des pièces de puzzle qui se mettent quelque part. Et nous ne savons pas trop où elles vont aller encore, mais elles y sont. Et à un moment donné, nous avons comme une révélation où les pièces commencent à s'emboîter et où une image apparaît. Eh bien, c'est cela qui est important. C'est de continuer à lire l'Écriture, à nous nourrir de cette Écriture, de manière à ce que le jour J, quand l'Esprit de Dieu prendra des pièces qui sont déjà, que nous avons mis dans notre esprit ensemble pour les mettre et pour nous montrer une image dont nous aurons besoin pour notre vie chrétienne, eh bien, il est important de persévérer dans cette lecture de l'Écriture. Ne nous décourageons pas à ce titre. Et bien sûr, prenons cette parole que Jésus a dit à Paul après avoir prié 3 fois, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que tu accompliras ton ministère. » Alors mes amis, pour conclure, j'aimerais vous rappeler que l'ascension de Jésus et en même temps l'expérience de Paul nous place, nous aujourd'hui enfants de Dieu, face à 2 réalités. Une réalité à venir, le ciel, avec tous ses mystères, mais aussi les promesses de l'Écriture qui y sont liées, et une réalité présente en même temps, c'est-à-dire notre vie sur la terre, lieu où l'homme souffre, meurt, parce que le péché originel a tout déréglé. 2 réalités qui doivent rester bien présentes à notre esprit pour que nous puissions avoir une vie chrétienne équilibrée. Et pour cela, le chrétien né de nouveau doit faire un peu cet élastique, avoir la tête au ciel et en même temps rester les pieds sur terre. Il y a un étirement là qui est fait. Et une première leçon ressort de cette constatation. Si je n'ai la tête qu'au ciel, eh bien, je suis déconnecté des réalités terrestres. Et de surcroît, je perds de vue ce que Dieu me demande d'être, c'est-à-dire un ambassadeur. Paul le dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, dit-il, adressait par nous son appel. Et nous supplions au nom de Christ, ceux qui sont autour de nous, soyez réconciliés avec Dieu. Mais si je ne pense qu'au ciel, comme parfois on peut le voir dans certains mouvements, si ces personnes ont l'impression d'être déjà dans le royaume de Dieu, ce qui n'est pas le cas, eh bien on perd ces réalités terrestres et cette responsabilité qui nous incombe de continuer à annoncer l'Évangile, cette bonne nouvelle. Et la seconde leçon ressort de cette constatation, c'est si je n'ai que les pieds sur terre, que je ne pense même plus au ciel. Et malheureusement, je crois qu'il y a des gens dans les églises qui ne croient peut-être même plus au retour de Jésus, on n'en parle plus. Hein. Eh bien, ils sont en danger de placer leur trésor dans les richesses périssables, c'est-à-dire les richesses terrestres, puisque ils y sont, ils y restent, ils y sont bien. Ils n'ont peut-être même pas forcément envie d'aller dans le royaume de Dieu. Moi, j'aspire à ce royaume de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Jean termine l'Apocalypse, les derniers mots de la Bible. Hein. Viens, Seigneur Jésus, viens, Seigneur Jésus. C'est un appel qui est fait. Parce que, oui, nous devons vivre sur la terre et nous avons des responsabilités, mais nous avons en même temps cette espérance qui vient. Bien-aimé, dira l'apôtre Pierre, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire, ne vous accrochez pas aux choses de la terre, mais en même temps, sachez que vous avez une responsabilité sur cette terre. C'est pourquoi, et je terminerai par cette parole de l'apôtre Paul, mes amis, que je voudrais vous laisser pour nous encourager encore. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent, et nous en avons des épreuves, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Puisse le Seigneur nous encourager à rester dans cet équilibre et surtout à garder cette espérance qu'il vient bientôt. Nous l'attendons. Je vous invite encore à prier. Seigneur notre Dieu, c'est encore un privilège d'avoir pu prendre ce temps autour de ta parole. Merci de nous rappeler ces choses essentielles pour aussi notre foi qui a besoin, comme dit l'Épître aux Hébreux, de grandir, d'être toujours plus importante aussi parce que nous regardons à Jésus qui suscite cette foi. Tu viens bientôt, Seigneur. Et nous sentons bien, dans ce monde si difficile et de plus en plus troublé, nous sentons bien, Seigneur, que les choses avancent vite et que ces signes-là ne trompent pas que tu es à la porte et que peut-être ton Église vivra bientôt cet enlèvement. Seigneur, puissions-nous être prêts et je te prie pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être encore sont dans le doute, eh bien qu'ils puissent aujourd'hui entendre ta voix et ne pas endurcir leur cœur, mais te laisser complètement régner, entrer et devenir ce Sauveur et ce Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui écoutent, qui sont là, qu'ils puissent être aussi encouragés et renouvelés dans ta grâce, je te le demande, et au nom du Seigneur Jésus. Amen.
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 Amen. Amen.